at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tunic. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Vincent, fidèle à toi-même, tu découvres encore des jeux plusieurs années après tout le monde et ce mois-ci, c'est le premier Life is Strange qui t'a charmé de son ambiance et de ses musiques. Salut Vincent.
Bonsoir à tous.
Lazare, pour toi, tous les mondes ouverts que tu as parcourus depuis 2017 ont un défaut rédhibitoire, ils ne sont pas Breath of the Wild. Salut Lazare.
Bonsoir à toutes et à tous, et en effet, j'ai fait ce terrible constat et je pense du coup ne plus faire aucun monde ouvert avant la sortie du prochain Breath of the Wild.
Alexandre, tu as fini près d'une quinzaine de jeux depuis le début de l'année, mais peut-être que le fait que tu sois au chômage y est pour quelque chose. Salut Alex.
Salut, et le chômage c'est bientôt fini, hélas.
Jean, tu as repris le travail, mais tu as quand même trouvé le temps de jouer à It Takes Two après qu'on en a parlé la semaine dernière. Salut Jean.
Salut Emeline, et oui, j'ai repris le travail, c'était cool, It Takes Two c'était très cool aussi, donc voilà, plutôt en forme ces temps-ci. Salut tout le monde.
Quant à moi, j'ai initié un duel sans merci contre un ami pour conserver mon titre de celle qui a le plus d'heures sur un jeu Steam, et je suis ravie de vous présenter cette dernière émission de la saison. Nous sommes accompagnés de Eve Benahim, Inspirational Content Advisor chez Ubisoft. Bonsoir Eve.
Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir ce soir.
Salut Eve.
Salut Eve.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ce mois-ci, l'habituel flashback de Jean ne portera pas sur une expérience de jeu, mais sur celle d'avoir évoqué ces derniers mois ses souvenirs de jeux vidéo. Le blind test de Lazare réunira les deux meilleurs types d'ennemis des jeux vidéo sur la thématique les zombies nazis, et Vincent analysera le travail de la compositrice Yoko Shimomura sur la licence Mario et Luigi. On commence par l'actualité.
Et côté news ce mois-ci, si vous avez une PS5, le mois de juin pourrait bien être le vôtre. Sorti le 10 juin de FF7 Remake Intergrade, le DLC tant attendu de ce petit jeu sorti l'année dernière. Et le 11, ça sera Ratchet & Clank Rift Apart et Guilty Gear Strive qui arriveront sur la console. De quoi faire plaisir à pas mal de gens en proposant des expériences différentes. Mais si vous avez une Nintendo Switch, le 11 juin, vous pourrez créer vos propres jeux vidéo. En effet, l'atelier du jeu vidéo arrive, et si vous n'avez jamais essayé de créer des petits jeux mignons, je pense que vous devriez y jeter un œil. Mais si jamais vous avez déjà essayé, je m'attendrai pas à grand chose de ce côté-là. En effet, on commence à connaître Nintendo et il y a fort à parier que vous serez bloqué si vous voulez faire quelque chose d'un peu complexe. Wait and see pour l'instant, mais l'idée semble séduisante sur le papier, même si personnellement, je me dirigerai plus vers un Dreams sur PS4 que vers l'atelier du jeu vidéo sur Switch.
Après, ils avaient quand même surpris un peu leur monde en sortant Mario Maker qui, même s'il était très fermé, a quand même donné la possibilité à celles et ceux qui voulaient créer des niveaux de Mario de s'en donner à cœur joie et de faire des trucs assez fous. Et en effet, comme tu disais, il y a quand même Dreams qui est passé par là, donc il n'est pas complètement impossible que en fait ils ouvrent vraiment leur ils ouvrent leur concept de manière à ce que ce soit plus libre que ce que ils ont eu, enfin ils nous ont donné l'habitude en fait. Donc je partirai pas du principe que ce sera si fermé et si frustrant que ça.
Ouais, je sais pas, moi c'est vrai que je pense que c'est surtout axé vers les plus jeunes et pour ouvrir à la création de jeux quoi. Mais ouais, j'ai vraiment peur qu'on reste sur quelque chose de simple, ce qui est pas un problème en soi hein, d'avoir quelque chose de simple, mais pour quelqu'un qui a déjà pu s'essayer par exemple sur des éditeurs de niveau comme Mario Maker, de se retrouver un peu penaud ou d'avoir des espérances peut-être un peu trop hautes pour ça, mais ouais, à voir, et puis peut-être que ça sera très bien en fait. Côté littérature, est paru ce mois chez Third Edition l'ouvrage d'Anthony Fournier, Entre les mondes de Death Stranding, créer le lien par le jeu. Auteur dont je suis sporadiquement les écrits depuis près de 10 ans, grand spécialiste d'Hideo Kojima et véritable érudit du jeu vidéo, Anthony Fournier nous donne dans son livre une histoire de Death Stranding, de sa genèse à l'analyse poussée de la dernière œuvre de Kojima. Si vous avez apprécié le jeu, ou même si vous ne l'avez pas apprécié, je vous invite tout de même à aller jeter un coup d'œil au bouquin disponible dans toutes les bonnes librairies et sur le site de Third Edition. Il me semble justement qu'ici on en avait parlé à la sortie, mais depuis on est plus d'un à y avoir touché, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de Death Stranding ?
Je croyais que t'allais dire que depuis c'était devenu un tabou dans l'émission, après que plusieurs d'entre vous aient failli vous étriper.
Ah, il y a un conflit Death Stranding.
Sans aller jusqu'à parler de conflit, oui, on n'est peut-être pas tous d'accord. Moi personnellement, je suis pas d'une école en particulier par rapport à Death Stranding, c'est juste que je suis passé à côté du jeu, je pense. J'ai vraiment poussé le truc jusqu'au bout. J'ai fait mes 60 heures, je me disais qu'il allait vraiment se révéler à moi à un moment ou à un autre, et pour moi ça n'a pas décollé quoi. J'ai pas rentré dedans, j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire, bref, et du coup, résultat, j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu 60 heures quoi. Mais voilà, je pense que si jamais des gens apprécient le jeu, très bien, moi je pense que c'est pas pour moi, ou alors faudra peut-être pour un autre moment, ou alors faudra qu'on m'explique, ou j'en sais rien. Voilà.
Raison de plus pour aller lire le bouquin d'Anthony, du coup.
Ça marche, ça peut être une bonne raison, ouais.
Non, et puis moi, après, vous savez à peu près ce que j'en ai pensé. J'ai pas poussé jusqu'aux 60 heures. Je me suis arrêté genre à 10 heures peut-être. Et en fait, ce que le jeu avait à me proposer ne m'a pas du tout intéressé. Donc, en termes de narration, en termes de gameplay et de Walking Simulator et ainsi de suite, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Après, les placements de produits, le pipi caca. L'école de la vie, enfin bon bref, c'était quand même un espèce de pot pourri, de truc pourri. Donc un pot pourri. Et voilà, donc du coup, ça, j'ai pas du tout accroché. Mais encore une fois, je comprends qu'on puisse aimer, et je sais parfaitement que Kojima, à chaque fois, ses propositions sont assez extrêmes, dans le sens où elles polarisent énormément les avis, mais voilà, je suis de la team pas intéressé.
Alors moi, j'y ai joué un petit peu, mais j'ai pas eu l'occasion en fait d'avoir... le jeu à faire sous les mains, on va dire, en entier. Par contre, j'avoue que j'ai bien aimé la promesse, j'ai bien aimé la proposition, j'ai bien aimé le gameplay. Enfin, je me suis amusée en y jouant, quoi. Maintenant, je pourrais pas juger, par exemple, l'histoire ou comment est-ce que c'est amené, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire en entier, tout simplement. Mais sur le principe, je serais hyper chaude pour le faire, parce que ça a l'air très très chouette.
Bah, j'avoue que moi, ça a été un truc, en fait, je l'ai pas du tout apprécié, disons, mais par contre, j'ai été hyper hypé avant. Pourtant, j'aime pas trop Kojima en plus, je suis pas spécialement fan de ce qu'il a fait avant. Mais quand j'avais vu l'univers, tous les trailers, etc., je me suis dit, mais ça a l'air hyper classe, j'étais vraiment hyper à fond. Il a débarqué, je l'ai fait, et là, mais la déception, je crois que ça m'est rarement arrivé d'être aussi. D'avoir un peu cet ascenseur émotionnel par rapport à un jeu, vraiment. C'était très.
Et qu'est-ce qui t'a déçu en fait dans le. Sur quoi est-ce que tu t'étais fait une idée par exemple qui te hypait, et qui en fait t'a déçu au final dans l'expérience finale?
Je pense que je voyais ça de manière un peu plus écrite, enfin comment dire, avec moins ce côté, monde ouvert, balade, enfin pas les balades, parce que les balades sont plutôt chouettes, mais plutôt voilà les quêtes, le transport de marchandises, etc. Ça c'est quelque chose qui transparaissait pas tout de suite au début dans les trailers, enfin tu voyais bien qu'ils trimballaient des caisses, mais je me disais que ça allait être plus, enfin que t'allais pas forcément faire 1000 allers-retours, etc. Enfin moi surtout j'avais été pris... par le côté, le rapport avec les sortes de spectres dont j'ai oublié le nom. C'est tout ce côté-là des trailers qui m'avait vraiment intéressé, le bébé dans la capsule, etc. Et en fait, surtout, ce que j'ai pas apprécié, c'est que voilà, ça reste extrêmement, extrêmement ésotérique, très 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 flou, très cryptique comme écriture. Enfin bref, je m'attendais à voilà, avoir des explications un petit peu pour comprendre l'univers, et en fait j'ai rien compris du tout à cet univers. Là, à la fin, je suis largué, quoi. Donc c'est surtout ça, je pense, qui m'a gonflé, c'est le côté hermétique, j'ai l'impression volontaire en plus, de la diégèse du jeu, quoi, et de sa narration.
Moi je me souviens juste que la fin était longue, voilà.
Oui, c'est pas 2 heures la cinématique finale de...
C'est peut-être même plus en vrai, parce qu'il y a un... Voilà, pour... attention, spoiler, mais il y a un générique, et en fait, c'est pas fini.
Oh la
c'est,
vache,
c'est pas fini,
okay.
Il y a encore d'autres trucs.
Bah après, alors c'est vrai que moi, par exemple, j'adore Metal Gear. Enfin, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai pas fait le 5, en fait, c'est le seul que j'ai pas vu, slash fait, mais tous les autres, j'ai regardé des let's play où j'y ai joué. Et c'est vrai que déjà, dans le 4, on sentait qu'il avait des velléités de réalisateur de cinéma, un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il essaie de les réaliser dans Death Stranding...
Bah déjà dans les MGS, il essayait de faire quelque chose de ce côté-là, et après Death Stranding, c'est vrai qu'il a poussé un peu tout ça plus loin avec des vrais acteurs et réalisateurs qui viennent dans ces trucs, sachant que Kojima, c'est quelqu'un qui est connu pour regarder un film par jour, a priori, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, mais par exemple, enfin je le verrais très mal ou plutôt très mauvais réalisateur de cinéma. Dans le sens où c'est quelqu'un qui fait des propositions quoi, quand même dans ses jeux qui sont autres que scénaristiques. Et du coup, je le vois mal vraiment faire quelque chose d'autre que du jeu vidéo.
Bah, je t'avoue que je me posais la question. Je me demandais s'il serait pas plus épanoui en fait à faire une carrière dans le cinéma. Je sais pas forcément du point de vue de la qualité, mais ne serait-ce que lui, tu vois, en tant que personne, est-ce que finalement il s'est pas un peu trompé de média parfois? Je me pose la question en vrai, sincèrement.
La question après, c'est de savoir si le public serait plus épanoui s'il faisait que du cinéma en fait. Parce que même si les cinématiques sont intéressantes, c'est quand même pas nécessairement toujours hyper bien cadré, pas toujours hyper bien filmé. Et que ce qui permet au truc de tenir aussi, c'est la proposition de gameplay et la proposition ludique entre. Donc du coup, est-ce que si c'était juste un film, est-ce qu'on s'emmerderait pas un peu?
Déjà, il y a des gens qui seraient tentés de te dire que dans Death Stranding, on s'emmerde. Donc...
Je veux bien lever la main là, mais ouais. Carrément, ouais. À certains moments, ouais.
Ensuite, c'est la sortie du mois dernier, celle que je n'attendais pas spécialement, mais que j'ai finalement dévorée. Resident Evil 8 Village, ou Resident Evil Village, est enfin sorti, et si je ne l'attendais pas, c'est bien parce que je n'ai pas pu passer les deux premières heures du 7ème opus. Je suis une flippette, c'est comme ça, mais ce Resident Evil 8 n'est pas pensé pour être un jeu terrifiant comme pouvait l'être son prédécesseur. Incarnant toujours Ethan Winters, ici dans un village perdu d'Europe de l'Est, il vous faudra retrouver Rose, votre fille kidnappée pour une raison inconnue. Bien sûr, qui dit Europe de l'Est dit que c'est la farandole des monstres. Lycans, vampires, créatures des marais, tout semble réglé pour nous faire peur, mais Resident Evil Village se rapproche bien plus d'un RE4 à la première personne que d'un RE7 qui fait encore pâlir les claustrophobiques. En définitive, je vous recommande chaudement de mettre vos mains sur ce nouvel opus, qui sait avoir ses moments de grâce et proposer un nouveau spectacle Resident Evil-esque. Parce que oui, je peux le dire avec confiance, c'est un jeu qui est bien huilé. Personne n'a joué à Resident Evil 8.
J'ai trop peur des jumpscares. Je peux pas.
Il y en a pas tellement de souvenirs.
Il y a la fenêtre.
Oui, il y a le truc de la fenêtre, mais... ça va, quoi.
Je crois que j'avais un TikTok de ça avec quelqu'un qui... Où il y a un mot avec marqué « Regarde par la fenêtre » et la personne, elle recule... revient sur ses pas sans se retourner.
C'était Paladin Ember. Et en fait, cette fenêtre-là, il y a rien... Enfin, il y a un mini jumpscare, mais... Mais c'est vrai que la situation est marrante, quand même.
Mais moi, la question que je me pose, du coup, là, parce que si on a un Resident Evil 9 encore avec ce personnage-là, est-ce qu'on sait si sa mère est encore vivante, du coup? Parce qu'ils vont enlever qui, maintenant? Vu qu'ils ont déjà enlevé sa femme, ils ont enlevé sa fille. Et puis, est-ce qu'on voit Ethan... est-ce qu'on voit le personnage principal à un moment? Est-ce qu'on est sûr que c'est pas Liam Neeson? Est-ce qu'on est sûr que c'est pas une adaptation de Taken, en fait?
C'est bien c'est ce que j'allais dire.
Je veux pas spoiler.
Merde, putain, c'est Liam Neeson qui joue le rôle du personnage principal.
Concrètement, on n'a jamais vu la tête de Ethan Winters, hein. Ce qui est une connerie d'ailleurs, je pense, mais bon. Et enfin, bonne nouvelle pour les Pokéfans et pour Vincent, vous pourrez jouer à Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante le 19 novembre 2021. En effet, The Pokémon Company a annoncé la date de sortie des remakes de la 5ème génération, en plus de celle de Pokémon Legends Arceus, l'action RPG nouveau qu'on attend désormais pour le 28 janvier 2022. Personnellement, je suis pas rassuré de voir ce dernier arriver si tôt, mais on sait tous très bien que ça se vendra comme jamais. Vincent, est-ce que tu es hypé?
Alors, pour Legends Arceus, énormément. Pour le remake, c'est quand même un jeu que j'ai fait un paquet de fois, donc si je me le prends, ça sera pas à la sortie, je vais attendre un peu. Puis en plus, niveau graphisme, enfin, la direction artistique, je suis vraiment pas fan, mais... Bon, mais pour Legends Arceus... Bon, c'est Game Freak, on les connaît, hein. Les deadlines sont toujours extrêmement courtes. Parce que c'est une franchise qui rapporte trop, donc ils peuvent pas prendre trop de temps pour développer les jeux, mais oui, je l'attends énormément. Mais j'ai un peu peur, comme toi aussi, de techniquement, voilà, un peu peur.
C'est vrai, de ce qu'on avait vu il y a quelques mois maintenant, techniquement, ça a quand même pas l'air incroyable, quoi. C'était vraiment chum.
Si c'est stable, pourquoi pas, ça reste un... Game Freak, c'est un studio qui est pas très gros, hein. C'est 100, même pas 150 personnes.
Bah c'est... quand même, c'est pas mal.
Ouais, mais on n'est pas loin des 1000 et quelques pour des très très gros studios. Et comme en plus ils sont sur plein de projets à la fois, et comme en plus ils ont des deadlines très courtes, ils peuvent pas faire de miracle. Donc forcément les jeux ils sont pas voilà, ils sont jamais magnifiques techniquement. Depuis Pokémon XY sur 3DS, on commençait à voilà, c'était des jeux qui ramaient un peu, qui étaient pas très beaux. Et c'était voilà, avec l'arrivée sur Switch de Épée Bouclier, c'était pareil, quoi.
Après, je pense qu'ils sont aussi... en fait, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a quand même une histoire de budget et de taille de l'équipe qui travaille dessus, qui joue beaucoup. Et pour moi, les images qu'on avait vues, elles pitchaient un projet, en fait, plus qu'elles pitchaient une promesse, tu vois, au final.
Mais effectivement, le remake, ils ont délégué ça à un autre studio pour mettre toute l'équipe de Game Freak sur Legend Arceus. Donc,
mais le truc avec Game Freak, c'est que je sais pas si on peut vraiment dire qu'ils ont des vrais problèmes de budget quand on voit l'argent qu'ils amassent tous les ans, quoi. Parce que Pokémon, ça reste un truc qui se vend très bien tout le temps.
Effectivement, maintenant, c'est Pokémon Company, c'est dirigé par trois entreprises, donc Game Freak, Nintendo et Creatures, je crois, juste comme ça. Donc déjà, c'est pas eux qui touchent tout chaque fois. Effectivement, ils gagnent énormément, mais quand on voit ce à quoi ressemblent les jeux, c'est évident qu'il y a des compromis qui sont faits, des deadlines beaucoup trop serrés, donc il y a quand même un problème quelque part, quoi. Je sais pas s'il manque d'argent, mais il y a un truc.
Ben, pour moi, c'est pas tant forcément une histoire d'argent que tu gagnes, parce que l'argent que tu gagnes, il a une... Bien sûr, tu vois, il a une importance dans la santé de l'entreprise et tout, mais en fait, l'argent que tu vas dépenser pour faire des jeux est quand même... c'est globalement des sommes qui sont très colossales, et en fait, c'est selon comment est-ce qu'ils investissent cet argent et qu'est-ce qu'ils privilégient. Est-ce qu'ils vont privilégier certains aspects tech? Est-ce qu'ils vont privilégier une grosse part artistique? Est-ce qu'ils vont privilégier, je sais pas, une com et tout? En fait, parfois, je trouve qu'on a un petit peu des attentes de AAA sur des projets qui n'ont pas les ressources derrière, finalement, pour en être, du point de vue de l'argent, parce que ça coûte hyper cher, quoi, tout simplement. Et je sais pas, en fait, à quel point est-ce que c'est pas eux, en fait, dans leur budget, qui décident sciemment, entre guillemets, de réduire un petit peu leurs ambitions, on va dire, à la baisse sur un projet qui serait de l'ordre du triple A, pour justement promouvoir en fait des jeux plus régulièrement, pour peut-être se diversifier sur d'autres aspects, sur d'autres choses. Donc ça, je sais pas, voilà.
Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où le budget, je pense, est très important, et les deadlines aussi que tu évoquais, mais par contre, le nombre d'employés, je me dis pas forcément, parce que tu leur donnes beaucoup de temps et beaucoup de sous, y a pas de souci. Genre, tu me disais qu'il y avait 100, 150 personnes, c'est ça, chez Game Freak ? À peu près ?
Ouais, 148.
148, genre, c'est...
Il me semble, hein, mais bon.
C'est quasiment j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est quasiment le nombre de personnes qui sont chez Arkane. Et, enfin, je veux dire, Arkane, tu peux pas les engueuler pour avoir une DA dégueulasse, quoi. Bien au contraire. Donc, je pense vraiment que c'est une question de deadline et de sous, mais je pense pas qu'une taille d'équipe... Enfin, ça joue, bien sûr, dans les... Comment dire ? Dans l'ampleur qu'un jeu va avoir, mais pour ce qui est de la DA, ou que t'évoquais au début, en disant que le jeu n'est pas forcément... très joli, etc. Ça, je pense pas que les effectifs des équipes aient vraiment à voir, quoi. Après, je suis pas spécialiste.
Ça, pour moi, c'est des trucs qui peuvent maturer avec le temps, en fait. Finalement, la patte artistique.
Ah oui, enfin, après, ça semble énormément changé depuis la vidéo qui nous avait lancé. C'était quand? C'était en février.
Ouais, février, ouais.
Ouais.
Février, parce que c'était pour l'anniversaire.
Et voilà, il y a pu y avoir beaucoup de choses. Ça se trouve, quand ils ont publié cette vidéo-là, le jeu avait déjà plus du tout la même tronche. Enfin, ça, c'est quelque chose qui reste à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que un jeu qui a des, je vais pas dire des promesses, parce que le jeu ne promet rien pour l'instant. Enfin, on sait rien sur ce jeu, mais qui est un jeu qui est attendu depuis X années, parce que tout le monde veut un Pokémon un peu en monde ouvert. Et qui soit autre chose que ce qu'on a l'habitude d'avoir, en fait, qui soit genre avec de la vraie 3D, des vraies interactions avec l'environnement et ce genre de choses. On a un peu l'habitude de voir des jeux de ce genre-là arriver et être quand même un minimum extrêmement travaillé, ne serait-ce que sur la partie graphique. Bon, après, ça sort sur Switch, donc on peut pas non plus lui demander d'être Horizon, quoi. Mais la Switch a quand même eu Breath of the Wild, donc ça pousse déjà la barre haut. Donc après, c'est à voir ce qu'ils vont faire avec Pokémon. Mais si on se retrouve avec un jeu en monde ouvert où quand on utilise vol, il faut choisir sur la carte où on va et on a un temps de chargement, pour moi, ça sera un peu une insulte, quoi. Enfin, genre, je le prendrai mal, personnellement.
Enfin, t'imagines, juste, il y a tellement de Pokémon qui ont des capacités différentes, des choses comme ça, qui peuvent voler, qui peuvent nager et tout. Si on te propose un monde ouvert et qu'au final, tu peux pas faire ce genre de choses librement, je suis d'accord sur le fait que c'est un acte manqué. grave, entre guillemets.
Et voilà qui conclut ces news et qui conclut aussi ma rubrique news dans une heure et des pixels. L'année prochaine, il y aura un changement de programme et je ne m'occuperai plus des news en détail comme cette année. Ceci dit, j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses l'année prochaine pour continuer à nous écouter.
Fallait dire que tu faisais la conclusion de l'émission, je l'aurais pas faite. Hein.
T'as décidé d'embêter Emeline, Alex, arrête.
Pardon.
Jean, tu reviens ce mois-ci comme pour clôturer un cycle sur ton expérience de chroniqueur des derniers mois.
Oui, tout à fait, exactement. Pour cet ultime épisode de la saison, je vais essayer de me prêter à l'exercice du bilan dans une sorte de retour réflexif sur mes prises de parole de ces derniers mois. Donc pour celles et ceux qui nous écouteraient ce soir pour la première fois, je rappelle que j'ai tenté dans mes précédentes chroniques de mettre en récit mes souvenirs vidéoludiques les plus marquants. J'ai parlé notamment de mes souvenirs de jeux avec mon père et avec mon meilleur ami d'enfance, j'ai évoqué ma passion pour Pokémon Rouge et pour Halo, et je me suis efforcé de retranscrire l'atmosphère du cybercafé que je fréquentais durant mon adolescence. L'objectif que je m'étais fixé, parce que malgré les apparences il y avait une intention derrière ce déballage de souvenirs intimes, l'objectif que je m'étais fixé, donc, était de partir de mon expérience personnelle pour toucher du doigt l'universel dans une sorte de merveilleuse montée en généralité. Et si je désire ce soir faire de cette dernière chronique une sorte de conclusion, c'est tout simplement parce que je pense être parvenu au bout de l'exercice, et bien que je ne sache pas encore de quoi sera faite la prochaine saison d'une heure et des pixels, je peux d'ores et déjà rassurer tout le monde en disant qu'il n'y aura plus de souvenirs vidéoludiques. Bref, ce petit bilan est divisé en deux temps, chacun étant associé à une question. La première m'est venue soudainement lorsque j'ai pris conscience que je n'aurais absolument pas pu me plier à cet exercice de chronique nostalgique, disons, si j'avais dû parler de films ou de romans plutôt que de jeux vidéo. J'ai pourtant lu quelques bouquins et je ne suis pas complètement étranger au cinéma quand même, mais je me suis rendu compte que j'avais très très peu de souvenirs qui y étaient associés. Alors je précise tout de même que quand je parle de souvenirs, je ne veux pas dire avoir en tête toute l'intrigue d'un roman ou connaître par cœur les dialogues d'un film. Dans ce cas précis, j'entends plutôt par souvenir mon expérience en tant que lecteur, spectateur ou joueur, donc non pas le fait de me souvenir d'un film, par exemple, mais le fait de me souvenir de l'avoir regardé. Pour rester sur l'exemple du cinéma, j'ai certes quelques souvenirs très forts, comme la première fois que j'ai vu 2046, mais si je suis parfaitement honnête, je dois avouer que je me rappelle peu de choses des films que j'ai vus. Je me souviens des films en eux-mêmes, bien sûr, mais très peu du lieu, de l'instant ou de l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de la séance. Ce qui n'est pas du tout le cas du jeu vidéo. Au contraire, j'ai plutôt l'impression dans mes chroniques de ne pas avoir tant parlé des jeux que de ce qu'ils m'ont fait ressentir, des personnes avec qui j'y jouais, des lieux où j'y jouais et des moments auxquels j'y jouais. J'ai clairement beaucoup plus de souvenirs expérientiels associés aux jeux vidéo qu'à la littérature ou au cinéma. Du coup, je me suis posé la question suivante, pourquoi ? Pourquoi j'ai plus de souvenirs associés aux jeux vidéo qu'au cinéma ou à la littérature ? Je sais pas du tout si c'est un ressenti purement personnel ou s'il est partagé par d'autres joueuses et joueurs, peut-être que vous pourrez m'en parler après, mais en ce qui me concerne, je pense qu'il y a deux raisons essentielles qui peuvent expliquer ça. La première, c'est que j'ai assez rarement joué seul quand j'étais enfant ou ado, ce qui s'est d'ailleurs ressenti dans mes chroniques, et à mon avis, les moments de partage sont plus susceptibles de nous rester en mémoire que les autres, tout simplement. Mais si j'ai autant de souvenirs marquants de mes moments de jeu, je pense que c'est parce que la pratique du jeu vidéo s'inscrit souvent dans le temps long. Sans parler des jeux multijoueurs sans fin ou des monstres chronophages que sont les jeux à monde ouvert ou les RPG, même un titre qui dispose d'une durée de vie d'une petite dizaine d'heures va généralement se faire sur plusieurs jours, qui en plus ne seront pas forcément consécutifs, ce qui fait que le jeu va en quelque sorte vivre avec nous pendant tout ce temps. Et de fait, plus un jeu nous accompagne longtemps, plus il peut créer des souvenirs en lien avec d'autres pans de notre vie, comme le lieu où on habite, les gens qu'on côtoie, les états émotionnels qu'on traverse, etc. Voilà ma réponse à cette première question, je serais ravi bien sûr qu'on en discute après. La deuxième question que je me suis posée est celle de la pertinence de ces chroniques et de cette volonté de toucher à l'universel. Pour formuler ce questionnement de manière simple, est-ce que c'est un projet réalisable ? Certes, j'aurais dû m'interroger un peu plus tôt, genre en septembre dernier par exemple, avant le premier épisode, mais je pense avoir maintenant plus d'éléments de réponse qu'il y a quelques mois. Il faut premièrement rappeler qu'un souvenir est une impression que la mémoire conserve. Cette mémoire étant faillible et sujette au vieillissement, les souvenirs en viennent irrémédiablement à se dégrader, et les miens ne font pas exception. D'où cette question, à quel point ai-je reconstruit mes souvenirs pour vous en parler ? S'agissait-il d'instants remémorés ou recomposés ? Et à partir de quelle proportion d'affabulation un souvenir perd-il son authenticité et donc une part de sa valeur par rapport au projet que je me suis fixé ? Deuxièmement, mon rapport aux jeux vidéo est historiquement situé, ce qui n'a rien d'étonnant, mais ce qui a pu éventuellement entraver mon désir d'universalité puisque les jeux de mon enfance ne sont pas ceux de l'enfance de tout le monde. D'ailleurs, un certain décalage a pu parfois se faire sentir lors des conversations qui ont suivi mes chroniques. Et troisièmement, enfin, au-delà du fait que l'on n'ait pas tous le même rapport aux jeux vidéo pour des questions d'âge, de goût, etc., beaucoup de gens n'ont pas du tout de rapport aux jeux vidéo puisque ça reste un loisir encore onéreux que certaines et certains ne peuvent pas forcément se permettre. Et je pense qu'il est difficile de prétendre à l'universalité lorsqu'on ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, ai-je rempli mon objectif avec ces chroniques ? Rien n'est moins sûr, mais est-ce que j'ai pu au moins vous intéresser, vous et nos auditeurices ? Je l'espère. Et voilà, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé plus particulièrement, surtout, allez-y, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Eh ben, c'est pas grave.
Sache que je partage ton avis sur le fait que, pour moi aussi, les expériences de jeux vidéo sont plus marquantes que celles de cinéma ou de livres. Et je pense que c'est entre autres parce que le jeu vidéo est un format qui t'impose une forme d'action que tu n'as pas forcément dans les autres formats. Alors certes, tu peux être actif, tu vois, tu peux être plus ou moins actif dans ta lecture, dans ton visionnage d'un film, mais ce n'est pas exactement pareil quand c'est toi qui es aux manettes d'une histoire que tu fais avancer à ton rythme. Même si, bon, tourner une page, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose ? Je pense que c'est des expériences qui sont aussi pour moi plus marquantes, et autant je peux te citer... une quantité astronomique de jeux DS, par exemple, qui m'ont marqué quand j'étais jeune, tu vois, ou de jeux PlayStation 1. Mais autant, par exemple, citer tous les livres que j'ai lus, par exemple, et en quoi est-ce qu'ils m'ont marqué, ça, j'en serais moins capable, même si j'en ai lu un certain nombre.
On a le même ressenti là-dessus, ouais. Je me posais la question, du coup, c'est chouette que ça rentre en écho avec ce que je disais, parce que je me disais, bon, est-ce que je suis vraiment seul ou pas, mais du coup, non, apparemment, ça a l'air assez répandu, du coup, c'est chouette.
Non, moi, j'ai pas particulièrement le même ressenti, par contre. J'ai énormément de souvenirs de films, et notamment même des souvenirs où j'étais seule, où je suis allée au cinéma seule, et j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de ça aussi. Donc, ça veut dire que c'était pas forcément des moments partagés, et c'était pas forcément des moments hyper particuliers, quoi. C'est vrai que j'ai des fois où je me souviens très bien de moi dans la salle de cinéma. Je sais même plus quel film j'allais voir, mais je me souviens... de mon mood à ce moment-là, je me souviens des vêtements que je portais, je me souviens exactement de ce qui s'était passé, en fait, dans moi, ce que j'étais et ce que je faisais à ce moment-là, et je me souviens pas du film. Donc j'en ai aussi pour des films et j'en ai aussi pour des livres, ce type de souvenirs-là. Une heure et des pixels continue après City of Tears, composé à la manière d'un thème et variation par Christopher Larkin pour Hollow Knight.
Thank you.
Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes en compagnie de Eve Benaim. Eve, tu es Inspirational Content Advisor ou responsable recherche de terrain en français chez Ubisoft depuis novembre 2019. Après ton baccalauréat, tu es entrée en parcours pluridisciplinaire bilingue à l'Université Paris-Sorbonne. Suite à une licence de géographie et aménagement à Paris-Sorbonne, Sorbonne Université, tu as fait un master géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges, parcours culture, politique, patrimoine, toujours à Sorbonne Université. En quoi consiste ton métier ?
Alors, au quotidien, je fais partie de l'espèce d'écosystème finalement qui accompagne les équipes des studios dans la création de mondes qui soient authentiques, immersifs et inspirés du réel dans une certaine mesure. Avec mon équipe, on va travailler sur les questions de sciences humaines et naturelles. Donc, ça peut être des sujets liés à l'histoire, à la géographie, à la sociologie, à l'histoire des arts. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les équipes des studios puissent aborder les questions liées aux sciences humaines et naturelles dans leur jeu avec le plus de confort possible. Et pour ça, on va leur fournir du support un peu pédagogique qui va les aider à appréhender ces questions et à se les approprier pour créer des univers immersifs et riches avec.
Depuis combien de temps ce métier existe-t-il dans l'industrie vidéoludique ? Comment a-t-il émergé et fait sa place au sein des studios ?
Alors, je ne maîtrise pas forcément l'historique précis, on va dire, parce que c'est un métier qui a été aussi porté par exemple, des intervenants externes, des consultants au sein de l'industrie, en fait, qui ont été sollicités à divers moments. Donc, c'est un peu difficile de poser, on va dire, une date de départ de ce métier-là. À Ubisoft, ce service, il est internalisé concrètement depuis Ghost Recon Wildlands, pour lequel, en fait, il y a eu la recherche de terrain qui a été effectuée avec une équipe interne. Et ce besoin, en fait, est parti du constat que quand on réalise un jeu qui est réaliste, en fait, qui va être inspiré du réel, on va accumuler en fait une certaine quantité de données scientifiques qu'on va garder forcément pour les équipes, en fait, pour qu'elles puissent réaliser les jeux. Et en fait, quand un projet se termine, on ne sait pas trop quoi faire en fait de tous ces ensembles de données. Est-ce qu'on les jette ? Est-ce qu'on les garde quelque part ? Il y a un peu ces questions-là qui peuvent se poser. Pour la plupart des équipes qui vont porter des projets qui sont inspirés du réel, que ce soit des projets contemporains ou historiques, on va avoir en fait ces espèces d'encyclopédies en ligne sur lesquelles on va écrire en fait du contenu scientifique, que ce soit des articles, mais aussi des vidéos prises sur le terrain, des images, des cartes, des schémas. On va vraiment essayer de balayer large, et comme ça, en fait, toutes ces informations continuent d'exister sur nos encyclopédies en ligne. Elles accompagnent les équipes qui produisent les jeux de la préconception jusqu'à la sortie, et même parfois pour les DLC, etc. Et de la même manière, ces données, comme elles existent encore et qu'elles sont accessibles, elles peuvent resservir peut-être à d'autres projets qui vont aborder des thématiques similaires et qui peuvent puiser en fait, pour s'inspirer dans ces bases de données-là également.
Concrètement, comment ton travail s'articule-t-il avec celui des autres équipes ? À quelle phase de la production des jeux participes-tu ?
Alors concrètement, on va dire au quotidien, moi je suis chercheuse en sciences humaines et naturelles. Je travaille dans une équipe qui est composée de nombreux chercheurs et chercheuses qui sont experts en histoire, en sociologie, en sciences politiques et militaires. Et en fait, tous ensemble, nous travaillons pour fournir en fait du contenu sur cette base de données scientifiques. Donc, nous allons rédiger des articles scientifiques pour lesquels on va identifier des thématiques qui seraient intéressantes pour les projets. On accompagne ces projets de leur préconception en fait jusqu'à leur lancement et les éventuels DLC. Sachant que bien entendu, plus la production avance et plus les demandes sont pointues, parce qu'en fait, quand on commence à faire un jeu inspiré du réel, on cherche à brasser large, en fait, à comprendre un contexte spatio-temporel, comprendre une période, comprendre une énergie, voilà. Mais évidemment, plus on avance et plus on va se poser des questions sur des structures, de l'architecture, des figures emblématiques, des conflits, des opérations, des armes, des véhicules, enfin, ça peut vraiment brasser très large. Et nous, on va être là pour les accompagner, justement, sur la durée avec ça. On va rédiger des articles scientifiques, on va prendre du contenu et de l'imagerie sur le terrain parfois quand c'est nécessaire, en emmenant parfois d'autres membres des équipes des studios. Pour moi, c'est un vrai challenge parce que, par exemple, je ne connaissais pas forcément bien les métiers du jeu vidéo avant de commencer à travailler dans cette industrie, parce qu'en fait, je n'ai pas fait une école de jeu vidéo, par exemple, ou de design numérique. Et en fait, ça a été pour moi, il a fallu un certain temps en fait pour apprendre quels étaient en fait les objectifs, les, les tâches en gros qui étaient attribuées à chaque personne, chaque équipe, parce qu'on se retrouve avec des projets qui sont de grande ampleur, avec des personnes qui ont des talents, des spécificités, des expertises qui peuvent être assez précises. Et voilà, il faut en fait comprendre ces intérêts-là, jongler avec les deadlines et en même temps les besoins des uns et des autres pour pouvoir aider autant que possible. Parfois, on va aussi réaliser des talks en studio, en fait, sur place, on va se déplacer pour, un peu à la manière finalement d'un prof d'histoire géo, quelque part, on va pouvoir donner un éclairage un peu plus précis à quand ça peut être nécessaire auprès des équipes. On fait également appel, bien sûr, à des consultants externes quand c'est nécessaire. Notre équipe tend à s'intégrer, en fait, dans cet écosystème qui est hyper large et qui vraiment vise, au final, à créer des univers qui soient riches, denses et agréables à parcourir pour les joueurs et les joueuses. Si au quotidien, dans mon équipe, on va remplir des tâches qui sont à peu près similaires, c'est-à-dire dans la rédaction de contenu et dans l'aide qu'on peut apporter aux différentes personnes qu'on rencontre en studio, on n'oublie pas quand même qu'on a aussi des expertises qui nous caractérisent un petit peu les uns par rapport aux autres. Moi, par exemple, étant géographe, je peux fournir des coups de main un peu plus précis et particuliers sur tout ce qui va être lié aux environnements, par exemple, mais aussi aux cartes et à la cartographie qu'on va adopter dans les jeux. Et de la même manière, moi-même, je peux faire appel à l'expertise d'un camarade qui serait expert en sciences politiques ou sur un domaine très précis de l'histoire pour avoir son avis. On se sollicite entre nous et on s'aide beaucoup les uns les autres.
Lorsque le jeu prend place dans un décor réel comme ceux historiques d'Assassin's Creed ou ceux des villes américaines de The Division qu'il faut imaginer bouleversées en reconstruction dans un futur proche, ton expertise permet de conférer de la vraisemblance à ces univers. Peux-tu nous parler de ton travail sur ce type de jeu ?
Sur ce type d'expérience, en fait, on va essayer de récupérer, de puiser de l'information et de l'inspiration dans plusieurs types de ressources, que ce soit des ressources scientifiques. Donc, dans le cas d'un Assassin's Creed, par exemple, on va beaucoup travailler sur les ouvrages, les archivages, l'histoire des arts, ce genre d'éléments, pour proposer des perspectives sur des conflits, des figures, des lieux emblématiques, ce genre de choses. Et quand on va travailler sur des environnements plus futuristes, on va dire, plus dystopiques, on va s'appuyer également sur de la littérature scientifique, mais on va aussi piocher dans des éléments marquants, par exemple de la littérature fantastique, dystopique, sur les films, les jeux vidéo en fait, qui nous ont parlé. Ce sont autant d'éléments qui vont nous permettre de nous inspirer et qu'on va essayer par la même en fait, de donner au studio. Sachant qu'un des aspects de notre travail, ça va être d'expliquer des éléments qui ne sont pas forcément évidents à saisir de prime abord, que ce soit des enjeux historiques, que ce soit des configurations géographiques. Moi, par exemple, c'est tout bête, mais expliquer comment fonctionnent certains écosystèmes, comment marche le climat, ce genre d'éléments, ça peut être utile. Mais en fait, on va aussi essayer de leur donner du contenu d'inspiration qu'eux-mêmes ne vont pas forcément connaître. Là, ça va être quand on va chercher, par exemple, des personnages un peu loufoques, des armes étranges, des choses comme ça. En fait, on va essayer aussi de travailler sur ce qui peut être anecdotique, parce que ça va contribuer en fait, à renforcer le sentiment d'immersion des joueurs et des joueuses quand ils vont se balader et peut-être être confrontés à, je sais pas, une quête hyper spécifique avec quelqu'un qui, en fait, sera inspiré de la vraie vie, par exemple. C'est ce genre d'éléments, on peut aussi y travailler dessus. En gros, on se limite pas sur les ressources scientifiques et culturelles qu'on va mobiliser. Et tout ce qu'on donne ne finit pas forcément dans les jeux, mais en tout cas peut permettre de créer une base d'inspiration pour les équipes qui vont ensuite créer des univers qui fourmillent de vie, d'histoire, de ville, d'éléments du paysage et de narration intéressants.
Dans le cas d'univers totalement fictionnel et dont la diégèse ne se situe pas dans le monde réel, sur quoi portent tes recherches ? À quel point dois-tu fournir un travail d'imagination pour trouver d'éventuelles inspirations pour les équipes créatives ?
Je pourrais ajouter qu'en fait, on a un travail qui est relativement compartimenté de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les jeux sont portés par des équipes avec des gens qui ont plein d'expertises, que ce soit des expertises artistiques, narratives. Il y a des directeurs artistiques, il y a des directeurs du monde, il y a des directeurs de gameplay, bien sûr. Il y a aussi des personnes qui travaillent sur les... en fait, tous ces aspects, on va dire, d'imagination, tout ce qui va créer le liant dans un projet. Nous, on n'a pas forcément ces tâches-là, parce qu'en fait, si tu veux, on ne va pas... le travail qu'on fournit ne va pas finir directement dans le jeu, c'est-à-dire en copier-coller d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, nous, on va essayer de pousser auprès de chacun et de chacune de ces acteurs et actrices des éléments qui peuvent les aider, en fait, à peut-être... à enrichir en fait leur perspective sur le jeu qu'ils sont en train de faire tous ensemble, et à voir comment est-ce qu'on peut le teinter de touches que nous on trouve par exemple intéressantes, qu'on trouverait pertinentes par rapport à ce qu'on essaie de faire. Et voilà, et en ce sens-là, en fait, on va encore une fois s'inspirer, eh bien, de autant de ressources scientifiques que de ressources culturelles qui nous parlent.
Peux-tu nous parler du World Mapping Facility, l'outil de cartographie développé chez Ubisoft ? À quoi sert-il et comment est-il utilisé dans la création de jeux ?
Alors, dans notre équipe de recherche, il y a un pilier très fort, on va dire, sur l'innovation technique, qui s'appelle Julien Laurent, qui a une grande expertise en informatique et en développement d'outils. C'est grâce à lui qu'en fait que l'on peut retrouver en ligne, en interne, l'accès à tout ce contenu scientifique qu'on crée, toutes ces encyclopédies en fait pour chacun des projets et des jeux. Mais c'est aussi grâce à lui en fait que nous pouvons travailler sur des aspects plus cartographiques. Je parle vraiment de cartes de support dans ce contexte-là. Je ne parle pas forcément de cartes qui finissent dans le jeu, parce que ça c'est encore un autre métier. Mais nous par exemple, on peut utiliser des cartes en fait pour supporter les équipes, pour leur montrer par exemple... En fait, pour avoir un autre outil visuel à notre disposition pour expliquer certains phénomènes, certains événements, certains conflits, par exemple, certains paramètres, on va dire, spatio-temporels, qui peuvent conditionner des univers. Donc ça, c'est ce qui s'appelait dans un premier temps le World Mapping Facility, et qui est devenu cartographe entre-temps. Et alors, l'intérêt de cet outil, c'est il est multiple. Donc en fait, déjà, c'est que les outils de cartographie, on va dire professionnels, je parle des SIG, donc des systèmes d'information géographique, des outils de carto en fait, utilisés par les géographes et les cartographes dans le milieu professionnel. En général, ce sont des outils qui sont très, très difficiles d'accès, qui sont assez complexes à utiliser, à s'approprier. Et en gros, c'est vrai que si on n'a pas une formation spécifique dans le domaine, c'est pas évident de s'en servir. Alors que nous, justement, on voulait un outil qui soit facile à prendre en main pour qu'éventuellement les équipes qui travaillent sur les jeux puissent se l'approprier aussi. Et ainsi, les personnes travaillant directement dans les studios, par exemple, peuvent utiliser ces cartes pour accompagner leur pitch, leur présentation, leur discussion entre eux, en fait. Et l'autre intérêt de cet outil, en fait, c'est qu'il est très interactif, c'est-à-dire que l'outil va permettre de fournir des cartes que nous, on va créer, bien entendu, avec tous les éléments qui nous intéressent dessus, que ce soit ce qu'on appelle des landmarks, donc en gros des points intéressants dans l'univers, en fait, dans le monde, sur la carte. Ça peut être, en fait, tout ce qu'on peut imaginer mettre sur une carte, que ce soit des polygones, des flux, des figurés de surface, etc. Et en fait, on va pouvoir on va pouvoir interagir avec, on va pouvoir associer des données sur les différents éléments sur lesquels on va pouvoir cliquer. Et entre autres, on va pouvoir en fait les renvoyer vers des articles en lien sur nos encyclopédies en interne. Alors, j'ai le sentiment que mon explication était un peu confuse, mais en gros, ce que cet outil permet de faire, c'est que quand on clique par exemple sur un point intéressant sur une carte qu'on propose, l'utilisateur ou l'utilisatrice peut voir s'afficher sur le côté des explications, des galeries de photos, de vidéos, et aussi des articles scientifiques que nous, on a pu écrire sur une des encyclopédies dédié au projet, sur nos outils en interne. Et ainsi, en fait, on va vraiment pouvoir créer beaucoup d'interactions entre nos différentes données scientifiques et rendre cette compréhension encore plus claire, cette prise en main du sujet encore plus claire et plus accessible pour les équipes.
Une heure et des pixels continue après Perseverance et ses éclatantes fulgurances baroques extraites de la bande originale de Gris que nous devons au groupe berliniste. Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de F. Benaim, Inspirational Content Advisor chez Ubisoft.
Est-ce que, globalement, dans quel sens ça se passe ? Est-ce que c'est, vous êtes là parce que Ubisoft vous demande d'être là pour tel ou tel projet, j'imagine ? Mais après, est-ce que les équipes, c'est elles qui font appel à vous en disant « Ok, on va bosser sur tel, je sais pas, tel événement, tel lieu, etc. Il nous faut tel truc, tel truc, tel truc. » Est-ce qu'ils, du coup, ils jouent une sorte de rôle de commanditaire ? Ou est-ce que vous faites force de proposition en disant tiens, ça pourrait être vachement intéressant pour vous, on pense que là vous pourriez bosser peut-être là-dessus, etc. Comment, diplomatiquement, comment ça se passe ?
Alors c'est un petit peu un jeu d'équilibriste dans lequel on se renvoie beaucoup la balle, mais c'est un petit peu les deux en vrai. En réalité, on fait un petit peu les deux. Donc par exemple, si on prend l'étape de préconception des jeux, parfois, on va être sollicité par, on va dire, des petites équipes qui se forment et qui envisagent la possibilité de faire un jeu sur un contexte défini. Et nous, on va pouvoir leur fournir les éclairages qu'ils nous demandent, en fait, sur les intérêts, les opportunités, en fait, que représente ce sujet, en fait, quoi, cette période. Et de la même manière, on produit on essaie de produire, on garde sous le coude, si tu veux, ce qu'on appelle des settings, qui vont être, en gros, nous, des analyses sur des contextes spatio-temporels, par exemple, qui peuvent nous sembler intéressants pour certaines marques, pour certaines séries de jeux. Et ainsi, on va les proposer, et éventuellement, parfois, les équipes, en fait, piochent dedans, et disent, bon, bah d'accord, on va pouvoir porter ce projet-là. Et ensuite, au fur et à mesure que le projet va se réaliser, en fait, tout simplement, cet accompagnement, c'est pareil. Il se déroule beaucoup en échange, c'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir des besoins, en fait, du côté de la production, du côté des studios directement, pour avoir des explications, pour avoir du contenu, pour avoir des ressources scientifiques, que ce soit pour creuser des sujets, mais aussi tout simplement pour, par exemple, les personnes qui arrivent en studio. C'est tout bête, mais imagine tu es, par exemple, développeur ou tu es artiste et tu viens de te faire embaucher à Ubisoft, voilà, Montréal, admettons. Et en fait, imaginons que tu arrives et on te dit, bah voilà, tu vas travailler sur, il y a quelques années, ça aurait pu être, voilà, tu vas travailler sur Assassin's Creed Valhalla, c'est un jeu qui se passe à la période des Vikings, et il faut que ce soit réaliste et authentique. Eh ben, certes, tu arrives en fait avec tes compétences, tes maîtrises et tout, mais tu connais pas forcément la période en fait du jeu sur laquelle tu vas travailler, tout simplement parce que ben, c'est des périodes qui sont relativement précises, relativement circonscrites dans le temps, qui font appel à un éventail assez large d'événements et de personnages. Et donc là, tu vois tout l'intérêt, par exemple, d'avoir ces espèces d'encyclopédies qui existent en ligne et qui permettent à ces personnes qui arrivent dans les équipes, tu vois, de rattraper les wagons assez rapidement et de comprendre les tenants et les aboutissants du projet, en tout cas du point de vue de l'authenticité et de l'immersion. D'un autre côté, nous aussi, on va être force de proposition dans la mesure où, juste de par nos bagages, en fait, et notre position un peu de... notre position de chercheur et de chercheuse en sciences humaines et en sciences nat, en fait, on va aussi leur proposer des éléments qui, eux, ne les avaient pas forcément frappés comme des opportunités potentielles, mais qui, nous semblaient tout à fait pertinents dans le contexte de fabrication du jeu, tel qu'il est en train d'être conçu. Et donc, on va aussi porter un certain nombre d'éléments qui nous semblent à nous, que nous jugeons, en fait, être cool, tout simplement. Et c'est vraiment un jeu beaucoup d'écoute et d'interaction. On va vraiment essayer de saisir leurs enjeux, saisir ce qui les intéresse, saisir leurs contraintes aussi et leurs besoins. Et de la même manière, on va essayer de les enrichir, de leur filer vraiment du contenu qui peut les intéresser sur plein d'angles différents. Et de se rendre non seulement utile, mais en plus de fournir une valeur ajoutée autant que possible.
Quelle est l'importance des déplacements, des voyages sur place pour justement alimenter cet outil, le cartographeur, en fait, à quel point vous... Comment se fait le calcul du... Bah, typiquement, pour telle recherche, il est vraiment nécessaire qu'on se rende sur place, ou bien est-ce qu'en exploitant simplement les moteurs de recherche, Internet, et ainsi de suite, ce sera suffisant pour obtenir des informations ?
Alors, c'est une question que je comprends, mais pour laquelle je vais avoir un éclairage assez limité, parce qu'en fait, je suis arrivée en novembre 2019, c'est-à-dire 3 mois avant le Covid. Donc, en gros, moi, j'ai pas eu l'occasion, si tu veux, de partir vraiment sur le terrain avec, avec les équipes. Maintenant, je peux essayer de te raconter un peu ce que j'ai vu de l'expérience de mes camarades, qui est que, en fait, ces déplacements sur le terrain font sens quand... alors, on part pas, bien entendu, on n'est pas tout le temps en vadrouille, si tu veux, avec les équipes, parce que ben, tout le monde a beaucoup de choses à faire, en fait, tout simplement, et que c'est pas forcément un temps qu'on peut... comment dire, un temps qui est facile à dégager, parce qu'il y a énormément de choses à faire pour qu'un jeu fonctionne. Mais néanmoins, on le prend quand même en considération dès lors qu'on estime qu'il a une véritable valeur ajoutée pour le projet. Ça peut être pour saisir, par exemple... l'ampleur, l'impact du ressenti que tu peux avoir quand tu es en personne face à certains monuments, certains espaces, et voir ainsi comment est-ce que ça peut t'inspirer pour reconstituer ces environnements dans le jeu par la suite. Ça peut aussi être, par exemple, pour participer à des ateliers qui vont mettre en avant certaines activités, certains moments en fait, de la vie quotidienne que tu peux réaliser à certaines époques. Je ne sais pas exactement si je peux donner des détails précis là-dessus, mais admettons, on peut être amené à faire, je ne sais pas, des ateliers de... pour Valhalla, il me semble qu'il y a des ateliers pour apprendre à forger des armes, mais comme on faisait en fait à l'époque viking, comment est-ce qu'on fabrique en fait des éléments d'armure, d'armes, ce genre de choses. Et donc c'est tout bête, mais en fait quand les personnes qui sont impliquées dans la création des jeux sont actifs aussi dans ce processus de découverte, quand ces personnes ont l'occasion d'expérimenter par elles-mêmes ce que ça fait d'être à un endroit spécifique, ce que ça fait d'être en train de réaliser une action spécifique, et ben ça peut en fait tout simplement les inspirer autant dans le point de vue du gameplay que du point de vue du world pour créer des expériences plus immersives et authentiques. Donc voilà. Et toutes ces expériences qu'on fait sur le terrain, on les fait accompagner en fait d'équipes d'imagerie qui peuvent récupérer des vidéos, des photos qui peuvent servir à la fois aux reconstitutions, mais aussi à fournir du support pédagogique supplémentaire. C'est-à-dire que si on va se rendre à un endroit assez emblématique, et ben on va faire comme un espèce de mini documentaire qui va permettre aux équipes de pouvoir avoir un accès un peu continu en fait à ce matériel-là.
D'un point de vue diplomatique, disons, comment ça se passe au niveau des relations purement avec les équipes de créa, est-ce que parfois ils peuvent vous considérer comme des gens qui vont leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils voudraient faire des trucs comme ci, comme ça, alors qu'en fait on peut pas trop le faire, ou ils sont plutôt vraiment super reconnaissants, etc. Ou alors c'est un peu un mélange des deux, j'imagine, évidemment. Mais...
Ouais, en fait c'est un peu un mélange des deux, ça dépend d'un projet à l'autre, hein, parce qu'en gros il y a des projets... En fait, c'est un peu bizarre comment c'est goupillé, mais si tu veux, tous les projets qui sont portés à Ubi, par exemple, ils n'ont pas la même ampleur, tu vois, la même amplitude en matière de studio et tout. Et donc, en fait, il y a des studios où, par exemple, il y a des projets sur lesquels il y a des historiens full-time avec les équipes qui sont sur place et tout. Je pense, par exemple, à Montréal, typiquement, il y a plusieurs historiens qui travaillent là-bas à l'année sur les Assassin's Creed, etc., parce qu'il y a un très gros besoin. Nous, on va dire qu'on a une position un peu plus centralisante. Enfin, techniquement, on dépendait historiquement de l'édito. Et voilà, bon, maintenant il y a eu des évolutions en ce sens-là, mais concrètement, en fait, on est un peu à une position où on balaye large, on a un peu une vue d'ensemble sur tous les projets. Il y a des projets sur lesquels il n'y a pas d'historien, par exemple, sur site, donc nous, on va avoir un rôle on va avoir un rôle finalement très près de la prod, même si on va pas fabriquer de trucs, tu vois, qui finissent directement dans le jeu. Et je dirais que ça, d'un projet à l'autre, on est plus ou moins bien vu. Sachant que de toute manière, on a un point de vue qui est consultatif et qu'on n'a pas de veto à poser, qu'on n'a pas du tout de velléité à dire bon, bah ça faut refaire, ta porte c'est de la merde, elle n'est pas authentique et tout. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans ce rapport-là avec eux. Mais par contre, on est quand même relativement écoutés quand il s'agit de, par exemple, des warnings qu'on peut mettre en avant parce qu'on a des doutes ou des peurs sur des incohérences en fait, par exemple, qui vont être relevées rapidement. Entre autres parce que c'est la stratégie Ubisoft aussi de dire ben nous on veut des jeux qui soient par exemple historiques et réalistes et donc ben voilà quoi, c'est aussi ce qu'on nous demande.
Mais du coup ce que t'expliquais, tu voulais côtoyer pas au jour le jour, c'est-à-dire que parfois vous vous déplacez pour les voir, mais sinon vous êtes vraiment vous les croisez pas tous les jours au café quoi.
Bah alors déjà avec le Covid encore moins, je vais être sincère, mais par contre on se parle tous les jours. Mais moi par exemple je travaille avec Newcastle. Plus particulièrement, c'est le studio avec lequel je bosse le plus. Mais je travaille aussi avec Singapour, avec Montréal et avec, Pune, donc un studio en Inde. Donc en fait, si tu veux, on est un peu, on serait un peu tel Pitbull, nous serions des espèces de Mr. Worldwide. Si on devait être au quotidien avec les gens, il faudrait qu'on prenne beaucoup d'avions. Mais par contre, on est tous les jours là sur Teams à se parler, à faire des visios, etc. Enfin, on est quand même très présents autour de nous. Juste, des fois, on se déplace parce que pendant 3 jours, en fait, on va être un peu au rythme des équipes qui vont peut-être s'attaquer à un truc plus spécifique. Et nous, on va être là sur place parce que c'est plus rapide que de prévoir des calls, si tu veux.
Merci beaucoup, Eve.
Merci beaucoup.
Une heure et des pixels n'échappe pas à cette loi infaillible et bien connue sur Internet. Plus la conversation s'éternise, plus la probabilité qu'on y parle de nazis s'approche de 1. Ce mois-ci, c'est sur le thème des zombies nazis que Lazar va tenter de nous faire deviner les titres de jeu à partir de sonore.
Et quel meilleur thème que le zombie nazi pour clore la saison et aussi pour clore ma participation en tant que chroniqueur à Une heure et des pixels. Je vais donc vous présenter 5 extraits classés du zombie le plus classique à sa forme la plus extravagante. Sachez que je ne me suis refusé aucun jeu et que donc toutes les licences peuvent être représentées. Premier extrait, jeu sorti en 2008 sur tous les supports.
Left 4 Dead ?
Non.
Bah, y'a pas de nazis à Left 4 Dead, si ?
C'est un mode multijoueur.
Oh, est-ce que c'est Dead Island ?
Non.
Dead Space ?
Ah.
Non plus.
Ah, c'est Call of Duty Zombie, là.
Je veux le nom du jeu.
Call of Duty Black Ops Zombie.
En 2008 ?
Non, c'était World at War.
Ah.
Ah oui, c'est dans World at War. Ok, d'accord, ouais. Je vois. Mais oui, j'ai reconnu les petits bruits de dollars.
Depuis l'opus World at War, la série Call of Duty, éditée par Activision, s'est faite une grande pourvoyeuse de vagues de zombies nazis qu'il faut dérouiller à l'appel. Il n'est absolument pas étonnant que Call of se souhaite approprier cette figure du méchant ultime, pourfendeur de la société américaine, danger mondialisé et surtout ennemi pour lequel le ou la joueuse n'aura aucune compassion.
Du coup, personne n'a de points là.
Bah non.
Bah non.
Hélas.
C'est que partie remise.
Oui. Bah Alex et Vincent sont généralement les deux sur le podium. Voilà.
Deuxième extrait, jeu sorti en 2013, sur tous les supports aussi. Le jeu est une trilogie.
Une trilogie ?
Dead Rising 3 ?
Non.
Dead Rising 2 ?
Non plus.
The Walking Dead ?
C'est un spin-off de Sniper Elite.
Un spin-off 2 ?
Ah, Sniper Elite, la merde, Nazi Zombie truc là.
C'est ça, bravo.
Nazi Zombie Army.
Non.
Quoi ?
T'étais pas loin, mais non.
Oui, bah, on fait ce qu'on peut, hein.
Zombie Army Trilogy est développé et édité par Rebellion Developments. Reprenant le gameplay de sa licence mère, à savoir des affrontements au sniper contre des mobs, Zombie Army propose d'affronter des boss tous plus monstrueux les uns que les autres, le penultième étant, sans grande surprise, Zombie Hitler, géant de flammes dont il faut venir à bout en refermant la bouche des enfers dont s'échappent les hordes de zombies. On retrouve ici l'association nazi-ésotérisme qui parcourt tant d'œuvres fictionnelles.
En même temps, c'est hyper dur. Hein.
Ah ouais, mais là, c'est des jeux...
Oui, j'avoue, c'est un sujet très pointu.
Troisième extrait, jeu sorti en 1992 sur DOS.
Wolfenstein.
Oui, oui, mais encore.
Return to Castle Wolfenstein.
Qu'est-ce que t'as dit, Jean ?
Non, mais j'allais dire ça, mais il m'a coupé l'arbre sous le pied, Alex.
Donc non, c'est toujours pas, le titre est toujours pas bon.
Ah merde.
Quoi ? Merde.
Ah bah non, Return to Castle, c'est le troisième, je crois.
Bah, Castle Wolfenstein.
Non.
Wolfenstein.
Wolfenstein 3D.
Exactement.
Oh, bien vu.
Il fallait bien qu'on le lise un moment.
Wolfenstein 3D, développé par id Software et édité par Apogee Software, ne déroge pas à la règle du jeu dont il est tiré. Désinguer du nazi pour s'enfuir d'un château. Mais ici, ce cher BJ Blazkowicz tombe nez à nez avec une forme particulière de l'ennemi ultime, le zombie mutant. Plus discret, plus puissant, il lui arrive de se retourner contre ses maîtres et de nettoyer les pièces pour vous, avant de vous tomber dessus.
Vincent prend la tête. Comme d'hab.
C'est un peu le Shazam du groupe.
Non, mais on lui a mâché le travail là quand même.
Oui, non mais en vrai oui, hein, c'est honteux. Ma victoire est honteuse.
Il n'y a pas de petite victoire, Vincent.
Quatrième extrait, jeu sorti en 2007 sur PS3.
Uncharted.
Oui.
Ah ouais.
Après, est-ce que quelqu'un connaît le titre entier du jeu?
Drake's Fortune. Uncharted Drake's Fortune.
Bien, bon, c'était pour être sûr.
Et oui, c'est le seul que je savais qui tomberait, je pense.
C'est marrant parce que j'ai pas du tout... Enfin, j'ai jamais fait aucun Uncharted, mais j'aurais pas du tout soupçonné la présence de zombies nazis dans un épisode, quoi.
Alors, non, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'on trouve un sous-marin en plein milieu de la jungle. Après, on rentre dans la base qui est en plein milieu d'une montagne, en plein milieu de la jungle. Et moi, c'est le moment où j'ai arrêté le jeu. C'est-à-dire que déjà, retomber sur des nazis, ça m'a gonflé. Et en plus, qu'on nous sorte des zombies nazis, alors que le jeu commençait déjà à me gonfler, j'ai laissé tomber. Donc, je ne connais pas la fin du 1.
Bah, figure-toi que moi j'ai continué, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là précis que j'ai fait un gros soupir et que je me suis un peu forcé à finir.
Non, mais ça montre un peu un truc, hein, qui est que le premier Uncharted, c'est quand même le tournant de Naughty Dog, du cartoon au truc un peu plus réaliste. Et du coup, en fait, c'est pas étonnant qu'ils reprennent ce canon-là du nazi et du zombie nazi, au moins pour celui-là, et après ils sont partis vers autre chose.
Je disais le mois dernier que la licence Uncharted avait gardé la figure du pirate pour son dernier opus, mais elle n'a pas hésité à exploiter celle de l'expérimentation nazie dès les premières aventures de Nathan Drake. Alors que le héros se trouve dans une ancienne base de sous-marins, en plein milieu de la jungle, il est soudainement attaqué par le fruit d'expérimentation nazie qui se traduisent par des monstres à la croisée de la créature de Frankenstein et des leakers de Resident Evil. Cinquième et dernier extrait, mon préféré, sorti en 2014 sur toutes les plateformes.
Allez, Worms.
Ah, South Park. South Park, The Stick of Truth.
Exactement, Vincent.
Il y a des nazis.
Purée, battu sur mon propre terrain. C'est moche.
Ah ouais, moi avec South Park.
Et est-ce que vous pouvez me dire quel combat c'est?
Non, je sais plus.
Le combat contre les zombies nazis?
Ah si, c'est contre chef.
Non. Vincent, t'as le point, mais si quelqu'un avait trouvé ce que c'était, je pense que je lui aurais accordé la victoire.
Oh l'autre, il donne les règles après comme ça.
South Park, le bâton de la vérité, développé par Obsidian Entertainment et édité par Ubisoft, s'inscrit dans la droite lignée de la série d'origine en allant jusqu'au bout de ses idées sans se soucier d'aller trop loin. Les enfants de South Park se retrouvent à devoir sauver leur ville d'une pandémie de zombies nazis sous toutes ses formes, de l'adulte au fœtus, en passant par la vache zombie nazie que l'on a entendue ici, en se terminant sur la princesse Kenny transformée en zombie nazie, du South Park dans son jus. Et donc oui, donc en fait c'était des vaches nazies zombies. Et qui parle en allemand, et je suis quasiment persuadé que ce ne sont que des répliques d'Hitler.
Ça serait tendu quand même.
Ouais, un peu.
Ah bah, c'est South Park, hein. Et figurez-vous que je crois qu'on a fait les 5 jeux et ou licences dans lesquels il y a des zombies nazis. Je n'en ai trouvé aucun autre.
Et bah, je me disais aussi que je n'avais jamais joué à un jeu de zombies nazis. Mais belle découverte.
Du coup, voilà, mais non, c'est... Peut-être que les gens ont encore peur de l'exploiter, ou peut-être que c'est too much.
Peut-être même qu'en fait, on est passé à autre chose. C'est-à-dire que, enfin, genre, rien qu'au cinéma, le thème du nazi, enfin, genre, c'est quelque chose qui est complètement dépassé aujourd'hui, je trouve. Ou alors qui revient un peu par manque d'inspiration, quoi. C'est un peu les méchants idéales, quoi, les nazis, pour le coup. J'ai du mal en fait avec ces films ou ces jeux dont on dit ok bah pouf, il nous faut un méchant, qu'est-ce qu'on fait, ok on met des nazis, ouais mais on est en 2100 quelque chose, ouais mais c'est pas grave, c'est des nazis qui sont allés dans le futur et ils reviennent, enfin genre.
En fait à partir du moment où c'est des figures historiques, ils se font forcément le reflet en fait d'un imaginaire collectif dans une société. Tu vois. Donc en fait, si on en parle moins ou si maintenant il est moqué, c'est aussi parce que c'est une histoire avec laquelle on a appris en fait à faire collectivement notre deuil en fait. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'il faut le voir plus qu'autrement, et particulièrement au cinéma. Le cinéma se fait très très bien comme ça, le reflet des imaginaires nationaux, particulièrement nationaux en l'occurrence, puisque là c'est toujours comme ça qu'il faut le concevoir. Mais par rapport aux jeux vidéo, pour moi, c'est un peu autre chose, le zombie nazi. C'est juste que tout le monde s'est rendu compte à quel point c'était n'importe quoi. Il y a un moment, c'est n'importe quoi, faut arrêter.
Ouais, c'est grotesque, mais c'est ça qui est l'intérêt.
Voilà, c'est grotesque.
Non, mais je pense aussi que ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé à des générations qui n'ont plus peur de travailler avec la figure du nazi en général. On le voit bien typiquement, ça fait 2-3 ans peut-être que l'Allemagne autorise l'utilisation de symboles nazis dans les jeux vidéo. Alors que jusque-là, tous les jeux qui présentaient des symboles nazis devaient les enlever dans leur version allemande.
Ouais, bah le premier Call of Duty, hein, par exemple, il y avait des, des lieux où donc il y avait des grands drapeaux nazis avec des croix gammées, et en fait quand, dans la version européenne ils ont changé ça donc par des croix de fer, je crois que c'est ça le nom.
Ouais,
Le nom exact, parce que ouais, effectivement il y avait une législation qui voulait qu'on retire les croix gammées, donc ils ont fait ça sur toutes les versions européennes. Et après, c'est marrant, il y a une vidéo anglophone, j'essaierai de la retrouver pour la mettre en description sur la VOD, sur la rediff de l'émission, mais que j'avais pas mal aimé, c'était en anglais forcément, et ça s'appelait Stop Normalizing Playing Nazis in Video Games. Et en gros, c'est un mec qui dit ok, game designer, créatrice de jeu, si dans votre jeu vous voulez nous faire incarner des nazis pour une raison ou une autre, ce qui peut arriver dans certains jeux de guerre notamment, ou dans des versions multijoueurs de ces jeux-là, faites quelque chose pour que, en tant que joueur, on nous mette face à ce que les nazis ont fait, et globalement, il n'y a pas de raison que du point de vue du jeu et du gameplay, les nazis soient vraiment traités de la même façon et avec la même vision que les forces alliées ou autres. Et c'était une réflexion qui était vachement intéressante, et que du coup j'invite un peu tout le monde à...
Tu te souviens de quand elle date, cette réflexion? Parce que je sais que justement, je vous avais fait suivre il n'y a pas longtemps un article sur justement la question des personnages nazis dans la culture japonaise et dans les mangas et animés, et quelqu'un faisait référence justement à un personnage de Battlefield 5 qui est un pilote de char qu'on incarne, et qui est du coup un gradé de l'armée allemande. Alors je ne sais pas s'il faisait partie de la SS ou pas, et en fait le jeu désamorce le truc en disant il n'est pas si méchant que ça, parce que il ne savait pas qu'il était au service des nazis. C'est-à-dire qu'il était gradé dans l'armée allemande, il était conducteur de char et ainsi de suite, mais il ne savait pas que le régime politique à cette époque-là, à ce moment-là, était nazi et ainsi de suite. Et je trouve ça assez fou de faire prendre soudainement du recul au propos de ton jeu, et de rassurer un peu le joueur ou la joueuse en lui disant non, mais vous avez quand même pas joué un vrai nazi, c'était un mec qui était pas au courant.
Alors je saurais pas te dire, je veux dire que la vidéo est sortie en 2019.
Vincent, une fois n'est pas coutume, tu vas nous parler de jeux vidéo japonais en évoquant le travail de Yoko Shimomura sur la licence Mario et Luigi.
Pour finir cette saison en beauté, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur un monument de la musique de jeux vidéo. Une compositrice connue et reconnue dans le monde vidéoludique, ayant apporté sa pierre aux édifices de nombreuses licences telles que Street Fighter, Kingdom Hearts, Final Fantasy, Parasite Eve ou encore Xenoblade Chronicles. C'est bien simple, au Japon il y a trois noms à coller au genre RPG concernant les musiques. Nobuo Uematsu tout d'abord, dont le travail fut évoqué par notre cher Hugo il y a plus d'un an de cela. Yasunori Mitsuda, dont je vous avais récemment parlé lors de ma chronique sur Inazuma Eleven. Et bien sûr, Yoko Shimomura, puisque c'est elle dont nous allons parler aujourd'hui. La compositrice japonaise, née en 1967, commence la musique très jeune, puisque dès ses 5 ans, elle prendra des cours de piano, instrument qu'elle perfectionnera tout au long de sa jeunesse. Grosse joueuse de jeux vidéo, Shimomura enverra différents échantillons de son travail à diverses compagnies dans le domaine. C'est Capcom qui répondra à son appel, l'embauchant dans la foulée à la toute fin des années 80. Après une poignée de petits jeux comme Samurai Sword ou The King of Dragons, elle réalisera en 1991 la bande-son originale d'un jeu encore plus obscur, Street Fighter 2. Bon, peu de chance que vous le connaissiez. C'est un énorme succès pour elle, et cela lui ouvrira de nouvelles portes, notamment celle de Squaresoft, chez qui elle fera au milieu des années 90, les musiques de Live Alive, Front Mission, et bien sûr, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Un jeu très important pour la chronique d'aujourd'hui, puisque c'est ce jeu qui donnera naissance à deux séries de RPG phares de chez Nintendo. Les Paper Mario, débuté sur 64 en 2000, et dont le dernier opus sur Switch sorti en 2020 fut abordé dans une précédente chronique. Et Mario Luigi, la série qui nous intéresse ici, débuté sur Game Boy Advance en 2003. Entre-temps, elle aura bien sûr travaillé sur des jeux aujourd'hui cultes, Parasite Eve, Legend of Mana, toute la série Kingdom Hearts. Depuis les années 2000, elle enchaîne les projets déments et côtoie très souvent le genre RPG avec lequel elle pourra véritablement s'éclater et montrer au monde tout son talent. En 2008, elle collaborera avec une pléthore de compositeurs sur Super Smash Bros. Brawl sur Wii. Elle composera quelques morceaux sur la BO du premier Xenoblade Chronicles, le thème principal est Colony 9 par exemple. Elle continuera de s'amuser sur Kingdom Hearts, et en 2016, la consécration ultime, elle supervisera la bande-son de Final Fantasy XV, dont elle composera la grande majorité des morceaux. Un CV bien rempli pour une compositrice de talent. Mais revenons au jeu qui nous intéresse ici, à savoir la série des Mario & Luigi. Une série malheureusement arrêtée depuis 2019 à cause de la fermeture du studio Alpha Dream, qui aura réalisé tous les opus. Des RPG sur console portable où l'on incarne Mario et Luigi, alternant entre les phases d'exploration et d'énigmes, dans des environnements farfelus et des phases de combat plutôt originales, se rapprochant du jeu de rythme. A l'instar des Paper Mario, ces jeux sont très fun, très bien pensés, pas trop longs et avec un humour décapant, brisant souvent le quatrième mur. Une série de 5 jeux plus 2 remasters qui auront su enchanter bon nombre de joueurs par son gameplay, son univers et bien sûr sa musique. Qui dit RPG dit combat de boss, et tout de suite, un premier extrait pour se mettre dans le bain. Le morceau Never Let Up est joué donc pendant les affrontements contre les boss du monde normal de Mario Luigi Dream Team, sorti sur 3DS. Ceux dans le monde des rêves sont accompagnés par un autre thème tout aussi génial. Un morceau assez impressionnant pour de la 3DS. Celui-ci démarre par une petite fanfare avec une trompette qui mène la danse et des percussions très dynamiques. Des instruments avant plus graves prennent le relais. Le piano, instrument fétiche de Shimomura, viendra ponctuer les différents moments de la composition. C'est sur lui que s'articule tout le morceau en vérité. Les violons font leur apparition et emmènent le morceau dans des dimensions plus épiques, dignes d'un combat de boss. C'est un super morceau composé d'une multitude d'instruments différents, tous très attachés au genre RPG. Slalomant entre des moments très fun et d'autres bien plus solennels, entre les envolées au violon et les transitions au piano, ce thème de boss aura marqué bon nombre de joueurs, devenant un des morceaux les plus populaires de la série. Et c'est tout à fait compréhensible tant il est génial. Autre jeu, autre ambiance, autre gameplay. Le morceau Mountaintop Secrets fait partie de la bande-son du dernier opus en date, à savoir Paper Jam Bros, sorti en 2015 sur 3DS. Un morceau qui accompagne l'ascension de Mario, Luigi et Paper Mario, petit invité de cette édition, dans une zone enneigée, remplie d'énigmes, de petits combats, d'événements loufoques, et avec quelques belles montagnes en arrière-plan. Le morceau commence par une petite mélodie à la guitare sèche, très douce et relaxante, accompagnée par des violons et des petites notes rappelant les cristaux des environnements gelés. La flûte fait ensuite son apparition pour encore plus accentuer l'ambiance calme et mélancolique de cet environnement de glace. Puis, le morceau s'emballe avec des percussions plus présentes et des violons qui prennent le dessus. La guitare est constamment présente tout au long de la mélodie, et ce sont les autres instruments qui se disputent à tour de rôle leur moment de gloire. On retrouve également quelques petites notes de piano, ça et là, la signature de Shimomura à n'en point douter. Un morceau doux, reposant et un peu mystérieux, parfait pour cet environnement hivernal. Dernier morceau et non des moindres, le boss final de Bowser's Inside Story. La grande finale se joue donc lors de l'affrontement final du troisième opus de la série, sorti sur Nintendo DS en 2009, puis remasterisé sur 3DS en 2018. Ce combat alterne entre une phase où l'on contrôle Bowser, puis où l'on revient sur Mario Luigi, à l'intérieur du Roi Koopa. Une petite mélodie au piano débute le morceau, accompagnée par des sonorités plus électro qui resteront tout du long en arrière-plan, pour dynamiser encore plus ce combat. Des motifs très courts en crescendo et décrescendo, puis le violon vient ici prendre le relais. Il alterne avec le piano, tous deux offrant une mélodie très majestueuse qui sied parfaitement à un combat de boss final. Ce piano de Shimomura, on pouvait l'entendre de manière un peu plus discrète sur les précédents morceaux, ici sa place est prépondérante, c'est l'instrument principal de cet ultime affrontement. Un duel qui devient épique et grandiose grâce au talent de Shimomura. Quoi de mieux qu'une telle composition pour finir un jeu pareil ? Si des licences comme Street Fighter ou Kingdom Hearts nous viennent tout de suite à l'esprit quand le nom de Yoko Shimomura est évoqué, la série des Mario Luigi, sans être non plus oubliée, est déjà moins présente sur nos lèvres. Avec cette modeste chronique, j'ai voulu rendre hommage à une compositrice de génie, et à une licence qui m'est chère également. Pourtant découvert tardivement, les Mario Luigi m'ont étonné par leur fraîcheur, leur gameplay addictif, leur humour très bien dosé, et par les compositions de Shimomura. Des jeux vraiment très cool dont je réécoute régulièrement les BO. En attendant, on espère que cette compositrice continuera son remarquable travail, mais aussi, pourquoi pas, que Nintendo refasse vivre Mario Luigi. Après tout, on peut toujours rêver.
Je connais pas du tout la licence, parce que j'ai jamais eu de Mario Luigi, mais j'aime beaucoup Yoko Shimomura, notamment pour Kingdom Hearts. Voilà, je pense que ça doit être les meilleures musiques de JRPG, à l'exception peut-être des FF, enfin de certains FF, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, ça me donne pas mal envie de me lancer dedans, éventuellement un jour, et de voir ce que ça vaut en tant que jeu. Pas que les musiques, mais au moins les musiques vendent déjà le truc, quoi.
Ouais, ils ont l'avantage de pas être trop longs, donc c'est pas des gros RPG de 80 heures, tu vois. C'est plutôt dans les 20-30 heures max.
C'est fou parce que moi, justement, je me suis lancé dedans il y a pas très longtemps, parce qu'ils étaient dans mon backlog depuis un petit bout de temps, et j'ai pas accroché, j'ai aimé le gameplay des combats qui est rythmé et tout, mais j'ai trouvé les phases d'exploration et les phases hors combat assez molles. Et c'est vrai que j'ai pas accroché plus que ça à l'histoire, et l'univers m'a pas suffisamment emporté en fait pour que je passe outre ce défaut que j'ai trouvé de phase d'exploration.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par Pixelop en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous remercions à nouveau FB Naïm d'avoir accepté notre invitation et passé ces 58 minutes en notre compagnie.
Merci beaucoup à vous.
Cette émission est à nouveau enregistrée à distance. Nous saluons donc notre réalisateur Alexandre Vicard, toujours privé d'émission depuis octobre dernier. Une heure et des pixels revient à la rentrée sur Radio Campus Paris. Toute l'équipe vous remercie d'avoir écouté l'émission tout au long de cette deuxième saison et vous souhaite un bel été. Nous nous quittons sur Home Sweet Home, dont le tempo flottant alterne constamment entre binaire et ternaire, composé par Christophe Herral pour Beyond Good and Evil.